Hey, it's Cole Swindell, and when I spend 200 days a year rolling down the highway, the bus can start to feel smaller than a guitar case. Everyone wonders how I stay chill while the hours crawl by. Truth is, one good luck spent on Chumba, and suddenly the trip feels a whole lot shorter. Finding your space, even when there isn't much to spare. Need some chill? Let's Chumba.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus TNCs apply. Sponsored by Chumba Casino.
Craving the coffee flavor you love, but without the caffeine? Ka'Chava's got you covered with their newest coffee flavor. This all-in-one nutrition shake delivers bold, authentic flavor crafted from premium decaffeinated Brazilian beans with 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, and so much more. Treat yourself to the flavor and nutrition your body craves. Go to ka'chava.com and use code NEWS. New customers get 15% off their first order. That's ka'chava.com, code NEWS.
Mais là, on va plutôt faire un focus sur ces élections municipales qui approchent à grands pas, en revenant bien évidemment déjà sur votre expérience d'ancien élu. Alors, pour les quelques rares qui ne vous connaîtraient pas, vous avez été député pendant un peu plus d'une dizaine d'années, ça s'est fait en deux fois. Vous avez été aussi conseiller régional du Nord-Pas-de-Calais. Vous avez une carrière quand même bien remplie. Vous avez été président du Rassemblement pour la France pendant une dizaine d'années aussi. Et aujourd'hui, vous êtes particulièrement investi justement dans tout ce qui concerne cette démocratie directe. Alors, ma première question, avant d'aller un petit peu plus en avant, quel regard vous portez aujourd'hui sur nos institutions, sur l'état de nos institutions en France ?
C'est un regard extrêmement pessimiste dans la mesure où je pense que elles sont totalement délabrées. Monsieur Macron est quelqu'un qui s'est emparé du pouvoir grâce à un coup d'État, on va dire politico-médiatico-judiciaire, et qui ensuite a installé une majorité qui en fait n'a jamais vraiment été majoritaire. C'était une majorité constituée de gens qui venaient, en fait, d'arrivistes qui venaient soit du PS, soit de ce qui est maintenant le LR, c'est-à-dire des traîtres de gauche et des traîtres de droite, tout ça en faisant croire qu'il était libéral, alors que manifestement sa politique, avec notamment la pression fiscale, montre qu'il n'est pas du tout libéral, que sa gestion a été calamiteuse, que c'est une gestion social-démocrate avec tout ce que ça comporte d'endettement, de dépenses inutiles, de nomination d'un très grand nombre de copains partout, dans tous les fromages de la République, et Dieu sait s'il y en a. Donc la situation est désastreuse et elle se traduit bien sûr par des revers qui sont des revers nationaux, c'est-à-dire le fait que la France non seulement recule dans le domaine économique, mais également n'a pas du tout mis un frein à l'immigration, bien au contraire, que par là même la société se disloque, que l'immigration augmente, et maintenant tout le monde l'admet, le taux de ce qu'on appelait avec Durkheim l'anomie et qui entraîne la délinquance. Et par là même, la situation est catastrophique avec, contre ça, en quelque sorte, deux manœuvres qui sont celles du pouvoir. Alors, la première manœuvre est assez facile parce que le pouvoir bénéficie encore d'une large audience dans les médias. C'est-à-dire que la majorité des médias, en fait, sont plutôt proches du pouvoir ou sont plutôt centre-gauche, disons.
C'est ce qui leur permet d'exister aussi.
Absolument. Donc, si, absolument, parce que la plupart sont financés par les deniers publics. D'ailleurs, en fait, quand vous regardez par exemple les télévisions, notamment les télévisions d'information, vous avez 3 sur 4 qui sont dans le fond plutôt favorables au pouvoir. Vous en avez une, c'est CNews, qui joue un petit peu les francs-tireurs, mais elle est immédiatement menacée par toutes les instances qui peuvent contrôler ça. Je pense notamment à l'ARCOM, l'un de ces fromages dont je parlais tout à l'heure, et qui encadre complètement l'évolution de la démocratie en France. La démocratie est étranglée en France. La liberté d'expression est étranglée en France. Il y a actuellement quelque chose d'extraordinaire qui se fait, c'est la commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public. Voilà.
Justement,
vous avez vu ce qui se passe.
Justement, vous évoquez le pouvoir médiatique. Est-ce que c'est pas lui justement qui provoque en fait cette situation et qui donc pour le coup est bien supérieur au pouvoir politique. Cas de Macron, il venait pas de nulle part, mais enfin presque tout compte fait, il avait
pas. Mais Macron n'existe que par cette connivence avec une majorité des médias, même des médias locaux d'ailleurs. On remarque par exemple que des grands médias locaux, je pense à Ouest de France par exemple, manifestement tirent à boulet rouge, c'est le cas de le dire, sur le Rassemblement national et empêchent l'alternance qui serait légitime quand on regarde l'évolution des votes dans le pays. Alors ça, c'est la première chose. Et ensuite, il y a une deuxième chose, c'est que il faut reconnaître, la Macronie utilise assez bien ce socle de diffusion pour vendre ses produits. Alors, ces produits, quels sont-ils? C'est l'idée notamment que le centre est moins dangereux que les extrêmes. Et alors là, on a assisté à quelque chose d'étonnant, c'est ce drame qui s'est produit à Lyon, l'assassinat de Quentin. Vous avez remarqué comment cette chose qui, évidemment, mettait sur la scène le danger représenté par l'extrême gauche, par LFI, qui effectivement a de plus en plus une ressemblance avec les partis militaro-politiques qui se sont développés dans l'entre-deux-guerres. Alors, on parle des fascistes, non, mais les bolcheviks, c'était pareil. Si vous voulez, eux, c'est plutôt des bolcheviks, en fait. Mais ils ont bien ce côté, un parti totalitaire, arrogant, hargneux, qui refuse absolument la diversité de la pensée. Et puis, maintenant, une milice à ses côtés, qui est son bras armé. Bon, ça fait peur, quoi. On se dit, c'est une évolution. Alors, on aurait pu dire que ceci aurait conduit les Français à dire, bon, décidément, il faut qu'on remette de l'ordre, il faut donc redonner le pouvoir qu'il mérite à la droite, puisque celle-ci a été tenue à l'écart du pouvoir depuis maintenant 2012 pratiquement, hein, d'une part par la victoire de Hollande et d'autre part par le coup d'État, enfin ce qui s'est passé contre Fillon, qui est encore une fois une sorte de coup d'État larvé, avec Macron d'un côté et tous ses amis.
Justement, si on revient sur la première élection d'Emmanuel Macron en 2017, donc vous l'avez évoqué à l'instant, sans le dire, mais ça revenait à ça. Bon, il y avait ce côté, comme le disait Marine Le Pen à une époque, c'était l'UMPS, en fait, la passerelle entre des partis traditionnels plutôt centristes était très poreuse. Et en 2017, il a été élu avec ce concept un petit peu de société civile. En gros, je vais vous associer, vous citoyens, en fait, à ce monde politique. On s'est aperçu très rapidement, et notamment ça a été le mouvement des Gilets jaunes, qu'il n'en était rien. Est-ce que, justement, on ne peut pas parler maintenant, vraiment, de rupture entre les citoyens et leurs élus, et donc de fait entre les citoyens et cette politique?
Alors, je termine ce que je disais auparavant. Donc, les macronistes, enfin Macron, utilisent très très bien la situation actuelle, et notamment même la situation internationale. Et celle-ci risque d'avoir des petites retombées sur les élections municipales. Parce que dans le fond, quand on dit, à propos de la mort de Quentin, c'est pas la faute de l'extrême-gauche, c'est la faute des extrêmes. Et nous sommes les gentils, nous sommes au milieu. C'est ça, ce qui a été vendu aux Français, c'est ça. Or, il semblerait que ça marche relativement. Et en ce qui concerne les municipales, ça marche d'autant mieux que effectivement les électeurs français ont une attitude un peu double par rapport à leurs élus. C'est-à-dire qu'ils considèrent avec beaucoup de suspicion les élus nationaux et en revanche s'abritent derrière leurs élus locaux comme si c'était vraiment la dernière protection. Si bien qu'on risque d'avoir un effet double, à savoir une situation internationale, une utilisation de l'affaire du meurtre de Quentin favorable au centre, et d'autre part, le fait que comme la grande majorité des élus locaux sont plutôt au centre, et que les Français aiment bien leurs élus locaux, on risque d'avoir finalement un succès apparent du centre qui pourra conforter la Macronie d'une façon complètement fallacieuse. Mais bon, le résultat sera là, quoi. Moi, c'est ce que je crains le plus. Alors que théoriquement, et c'était vrai dans le passé, les élections municipales étaient souvent des élections intermédiaires entre les élections nationales qui permettaient au peuple d'exprimer son mécontentement. Et donc, ça faisait souvent des vagues contraires aux vagues nationales précédentes et qui annonçaient les vagues suivantes, avec une clarté assez grande, puisqu'il y avait en gros une compétition entre la droite et la gauche, quoi, hein. Une droite modérée et une gauche modérée.
Est-ce qu'on n'a pas cassé justement l'évolution dont vous parlez en supprimant, en arrêtant en fait ce cumul des mandats, puisque en fait en gros on a des élus locaux que l'on connaît bien, Parce que bon, voilà, c'est le maire, et limite celui-là, on le voit tous les jours, les adjoints, on les voit tous les jours. Et puis, c'est élu le député, c'est élu national qu'on ne voit jamais et à qui on ne demande jamais de compte. Est-ce que c'est pas ce. Il avait été évoqué à un moment donné sous le gouvernement Bayrou de pouvoir revenir justement à ce cumul des mandats. Est-ce que ce serait une bonne chose selon vous?
Ah, personnellement, je suis tout à fait pour le cumul des mandats. J'estime qu'effectivement, un député-maire bien enraciné est quelqu'un qui représente un pouvoir local important et qui peut justement tenir tête à un pouvoir central qui est trop autoritaire. Ici, on a quand même cette situation extravagante d'un pouvoir central qui n'a plus de majorité depuis des mois et maintenant des années, et qui cependant se permet d'imposer ses idées pratiquement dans tous les domaines avec une certaine force. On va quand même subir un budget qui a été voté n'importe comment et qui est imposé au 49-3, c'est-à-dire sans majorité. C'est effrayant, quoi. On a plus de démocratie en France, c'est dramatique. On a un pouvoir minoritaire qui continue à gouverner et qui, encore une fois, bénéficie du soutien de beaucoup de médias et également fait preuve d'une certaine habileté tactique. Je pense notamment au fait que la guerre que monsieur Macron n'a jamais faite, puisque lui-même a évité soigneusement le service militaire, la guerre vient pour la troisième fois au secours de Macron. Hein. La première fois, c'était le Covid, il avait appelé ça la guerre, c'était pas une guerre. La deuxième fois, c'était la Russie. Et la troisième fois, c'est l'Iran. Hop. La guerre est vraiment une bonne chose pour lui, hein, parce que les gens, quand il y a la guerre, bon. Alors, ils rejoignent le troupeau, hein, ils se disent attention, là, il faut pas en plus déstabiliser, comme on dit, le pays, comme si le pays n'était pas déstabilisé par le fait qu'il est gouverné par une minorité. Ce qui est dans une démocratie est absolument scandaleux, quoi. Voilà. Donc, moi, c'est comme ça que je vois les choses. J'ai vécu, enfin, la première fois que j'ai été élu, c'était en 83. Et 83, ça succédait à 81. Donc, la droite avait raflé un très grand nombre de mairies par réaction à la victoire de la gauche en 81. Ça a annoncé les élections législatives de 86 qui ont été trafiquées par Mitterrand puisque on est passé au système proportionnel qui a empêché la droite d'avoir une majorité suffisamment large et ça a conduit ensuite en 88 à l'effondrement de la droite nationale suivi de la victoire de la gauche au municipal. C'est un jeu, bon, c'est fini, c'est plus comme ça que ça fonctionne parce que vous avez beaucoup de situations locales qui sont contradictoires les unes par rapport aux autres. Vous avez des villes qui risquent de basculer très à droite. Moi, je suis très très attentif à ce qui se passe à Nice, où Ciotti risque bien de Ciotti, donc, qui est UDR, ce qui me rappelle un petit peu l'UDR, c'était un nom qu'avait porté le RPR, LR, etc., bien avant, c'est-à-dire à l'époque de 58, en fait. Hein. Ça a été l'UNR et puis ensuite l'UDR. Maintenant, on a une situation où Nice peut passer à l'UDR, c'est-à-dire peut passer très à droite. Avec l'UDR, c'est un parti allié au RN. Hein. Or, il ne faut pas oublier que Nice, c'est la cinquième ville de France. Hein. C'est pas tout à fait négligeable. À Marseille, ça peut se jouer aussi. C'est plus difficile, mais ça peut se jouer aussi où le candidat RN est très bien placé. Mais vous avez en contraire des villes, par exemple dans l'Ouest, des villes comme Rennes, par exemple, où la gauche occupe tout le terrain, où pratiquement la droite est devenue inexistante. Et vous avez des situations où le centre va sauver les meubles en présentant un candidat médiatique et non pas politique. Je pense à Galzy, par exemple, à Avignon, théoriquement, il aurait dû avoir un effet anti-gauche en raison du fait que le député élu véritablement d'une façon scandaleuse aux dernières élections législatives avec le soutien de la Macronie. Hein, c'est la Macronie qui a fait élire un LFI qui était fiché S. Et qui en plus avait déjà été condamné sans se garder bien de le dire. Bon, il a été élu et puis on voit maintenant dans quelle mouvance il se situe. C'est-à-dire qu'il est en fait très très proche. Il est même le fondateur, je pense, de la Jeune Garde, c'est-à-dire une milice bolchevique, quoi. C'est clair. Alors donc on a des situations comme ça. Puis non, il y a Galzy qui va se présenter à Avignon. Et Galzy, bon, il est soutenu évidemment par la Macronie, ce qui fait qu'on va voter Téloche, quoi.
sur alors ça c'est pour ok je pour les éventuelles tendances droite oui. Gauche.
C'est très compliqué. Hein, parce qu'une région ou l'autre, ça va.
Est-ce que selon vous aujourd'hui, j'en reviens à mon désaveu d'une partie de la population française, désaveu vis-à-vis de ces politiques. Est-ce que vous pensez que le taux d'abstention pourrait être plus élevé qu'à l'accoutumée?
Moi, je crois
Il
pas. Non,
ressort beaucoup dans les réseaux sociaux, il ressort beaucoup de certains mouvements dissidents, alternatifs, cette notion de démocratie directe. Les gens voudraient décider
Ah
par eux-mêmes.
oui.
Alors.
Alors, deux choses. La première chose, si vous voulez, bon, aux dernières élections municipales, là aussi, ça a été un trafic épouvantable. De toute façon, depuis 2017, on vit dans le trafic, hein. On vit dans les leurres, on vit dans la tromperie généralisée de la population par le pouvoir, hein. Alors, qu'est-ce qui s'est passé aux élections municipales? Vous avez eu d'abord une première vague qui a été complètement anéantie, limitée par le taux d'abstention monstrueux à cause du Covid. Et puis, c'est seulement plusieurs mois plus tard que le deuxième tour a eu lieu dans certaines communes, avec une victoire tout à fait étonnante, et par lassitude des électeurs sans doute, des écologistes. Et notamment tous ces écologistes qui ont véritablement mis un certain nombre de villes dans des situations extrêmement difficiles. J'espère que le nettoyage se fera. Aujourd'hui, non, je pense qu'on aura un taux de fréquentation des urnes beaucoup plus important, parce qu'encore une fois, autant les électeurs sont en situation de soupçon par rapport au pouvoir national, autant je pense ils aiment bien leur maire en général. Il faut vraiment qu'il ait fait des bêtises. Alors évidemment, ça varie. Ce que je vous dis est très vrai dans les petites communes, et plus vous montez en nombre d'habitants, plus l'impact de la politique nationale joue un rôle sur la ville.
Pourtant, ouais, pourtant, il y a eu des sondages. Alors, c'était l'été dernier,
Oui.
justement, qui portaient sur, qui était à destination des maires sortants. Bon, et en gros, on leur posait la question de savoir s'ils voulaient se représenter ou pas. Et il y avait un pourcentage significatif, je crois que c'était autour de 30%, de maires qui disaient, je ne remets pas le couvert, j'en ai marre.
Oui, alors
Donc, il y avait.
ça, oui. Mais ça, ce sont deux choses différentes. Autant
Oui.
les électeurs, à mon avis, vont voter pour les municipales et risquent bien de faire un vote qui sera plutôt conservateur, qui fera en sorte que beaucoup d'élus sortants seront réélus, ce qui se traduira par une interprétation complètement fausse.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com.
Au niveau national, à savoir une approbation du pouvoir local, du pouvoir national, dans la mesure où beaucoup d'élus locaux sont dans la mouvance centre-gauche, centre-droit, avec souvent des mariages contre nature entre des anciens PS et des LR actuels, hein, ça existe dans beaucoup de situations. Donc ça peut éventuellement se produire aux prochaines élections, avec cette idée que on va voter local de façon conservatrice, alors qu'on voterait au niveau national de façon au contraire réactionnaire, en disant bon, ça suffit maintenant, il faut revenir à des choses sérieuses.
Mais
Le
ce qui
tout est de
ressortait de.
savoir si le Rassemblement national et ses alliés pourront montrer aux électeurs que c'est un parti sérieux, un parti qui peut gouverner, un parti. Je pense que petit à petit, ça se voit. Mais ce n'est pas encore acquis, hein, quand vous voyez que dans de grandes villes, je pense à Bordeaux par exemple, le Rassemblement national est inexistant, hein. Complètement
Mais
inexistant.
ce qui ressortait du sondage, pour
Oui.
terminer sur cet aspect-là, c'est que pourquoi vous voulez arrêter? La question qui venait après, pourquoi, à distinction des maires, pourquoi vous voulez arrêter? Il ressortait quand même que ces maires se sentaient impuissants, qu'ils n'avaient plus de pouvoir. Effectivement, on sent dans la ruralité notamment que les petits maires sont regroupés en communautés de communes, que bon, c'est le maire qui est élu président de la communauté urbaine ou de la communauté de communes, etc., qui a principalement le pouvoir, et puis les autres, bah voilà, ils passent les plats. Donc, en ce sens, est-ce que vous pensez que et ça fait aussi écho avec une statistique qui est sortie dernièrement qui s'inquiétait. Alors, elle avait été tournée de façon un petit peu, bien évidemment, hein, c'était très orienté. Hein, l'idée, c'était de dire, il y a trop de communes en France. 36 000 communes, vous regardez en Allemagne, il y a beaucoup moins de communes. Voilà, dans les autres pays européens, il y a moins de communes. Bon. Est-ce qu'à votre sens, à votre avis, il faudrait réformer ce mandat local quelle solution on pourrait apporter pour que justement tout le monde y puisse y trouver son compte? C'est-à-dire d'un côté des élus locaux qui s'investissent. C'est-à-dire un maire, aujourd'hui, c'est quand même quelqu'un qui s'investit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et qui a une responsabilité quand même étendue. Il peut se retrouver au pénal, hein, voilà. Donc les réconcilier eux et aussi les concitoyens pour qu'ils aient le sentiment que leur vote, à un moment donné, soit utile.
Est-ce qu'il y a des pistes ? Je pense que, comme je disais, ce sont deux problèmes distincts que vous avez évoqués. Ce second problème, qui est celui de la démission des maires, est lié à un problème qui est beaucoup plus général, à deux problèmes très exactement, qui sont beaucoup plus généraux. Le premier problème vient d'en bas, c'est la perte de l'autorité. C'est-à-dire ce que Durkheim appelait l'anomie, c'est-à-dire le fait que il y a énormément de gens qui bravent l'autorité. Et certains maires ont subi des choses absolument épouvantables. Il y a un maire quand même dont la maison a été incendiée, quoi. Bon, ça l'a pas empêché de se faire élire député peu après, mais bon, c'est Jean Blain, je crois, ça. Donc, aujourd'hui, un maire ne sait pas si la personne qui va venir demander un rendez-vous pour se plaindre d'une chose va pas finir par lui taper dessus, quoi. C'est pareil pour les médecins, c'est pareil pour les policiers qu'on agresse, etc. Vous avez un effondrement de l'autorité dans notre pays qui est absolument dramatique et qui fait que le respect qui était dû en général aux élus, moi personnellement j'ai connu ça, le respect dû aux élus, c'était important, quoi. Alors j'ai bien reçu une fois une balle dans une enveloppe avec des menaces, bon ça arrive, mais enfin on m'a quand même jamais agressé physiquement. Aujourd'hui il y a cette crainte. Et puis d'autre part il y a l'autre problème. C'est celui qui vient du haut. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez toute une série d'instances, hein, que ce soit le préfet, que ce soit la justice, qui encadrent le pouvoir des maires. Pensez à ces maires, par exemple, qu'on empêche de mettre une crèche dans leur mairie, mais c'est leur problème, ça ne concerne pas ni la justice, ni le préfet, bon sang, quoi. Les maires doivent être libres dans la mesure où, encore une fois, ils font en sorte que le bien commun de leur cité soit préservé. Voilà, certaines villes ont certaines orientations, certaines pratiques culturelles, traditionnelles, etc. Grand bien leur fasse, il faut conserver ça. Souvent, les maires sont obligés de faire des choses. Pensez aussi à ce problème complètement incroyable, scandaleux, hein, de l'obligation pour des maires de marier des gens qui ne doivent même pas être en France. Quand un OQTF maghrébin en général se marie avec une Française comme par hasard plus âgée que lui, dont on devine bien que c'est un mariage blanc pour faciliter la préservation de sa présence en France. Bon, le maire digne de ce nom, je pense notamment au maire de Béziers, à Ménard, refuse. Eh ben, on l'envoie devant les tribunaux. C'est-à-dire qu'on envoie un maire élu par des Français, par des électeurs qui l'ont choisi, même à plusieurs reprises là, hein, on l'envoie devant les tribunaux. Tout ça pour faire respecter les droits d'une personne qui n'a même pas le droit d'être dans le pays. On marche sur la tête quand on est dans des choses comme ça. Et à mon sens, si les Français réfléchissaient un peu plus loin que le bout de leur ville, ils devraient se dire que c'est au niveau national que ça va se jouer, ça. Il n'est plus possible de conserver la majorité actuelle, qui a failli à un point mais épouvantable, quoi. Elle a mis le pays dans une situation tellement calamiteuse qu'il faut mettre fin à ça. D'une manière ou d'une autre. Pas par la violence, j'entends. Quand je dis d'une manière ou d'une autre, c'est pas
bien sûr. Alors, bon, on a le système démocratique, en tout cas des élections telles que nous connaissons aujourd'hui, et de plus en plus, et ça s'est vraiment accru depuis 2017 avec l'intronisation de notre président bien-aimé, il y a de plus en plus cette notion de référendum. Alors, il y a différents curseurs, il y a des personnes qui souhaiteraient... que tout passe par référendum. Je vous décris ça en deux mots. Vous avez sur des réseaux sociaux des personnes qui promeuvent non seulement les référendums, mais en fait il faudrait que chaque commune ait en gros une constitution, enfin que le pouvoir revienne au peuple. Qu'est-ce que alors vous avez une personne connue, hein, vous avez Étienne Chouard qui est un des principaux leaders de cette notion de référendum d'initiative citoyenne notamment. Est-ce que selon vous, c'est une bonne alternative ? Est-ce qu'il faut que ce soit quelque chose de plus encadré ? Est-ce que c'est quelque chose auquel on devrait avoir recours de façon systématique, quels que soient les sujets ? Comment vous appréciez cette notion de référendum, notamment donc d'initiative citoyenne ?
Alors, personnellement, j'ai toujours été favorable, puisque j'avais déjà déposé une proposition de loi en ce sens lorsque j'étais député. Hein. Cette proposition de loi elle était assez simple, elle reprenait le système suisse, hein, c'est-à-dire la possibilité de référendums locaux et évidemment des référendums nationaux, référendums de trois ordres, c'est-à-dire, un, le fait de pouvoir proposer une loi, auquel le pouvoir n'a pas pensé, le fait de refuser une loi qu'il veut vous imposer, et troisièmement, le fait de changer la Constitution. Alors simplement, il fallait, puisque ces référendums que je proposais étaient d'initiative populaire, c'est-à-dire que ce sont les citoyens et non pas le pouvoir qui ont décidé, il fallait simplement que le nombre de signatures de la pétition entraînant le référendum soit plus important s'il s'agit d'une nouvelle loi, s'il s'agit de refuser une loi, ou bien si au contraire il s'agit de se référer à la Constitution. Il faut évidemment beaucoup plus d'électeurs qui signent pour changer la Constitution. Donc je suis tout à fait pour le système suisse en quelque sorte, et cela de longue date. Alors ça dépend évidemment de mon gaullisme, puisque De Gaulle était favorable au référendum et à la démocratie directe, y compris pour l'élection du président de la République. Et d'autre part, j'allais plus loin que lui dans la mesure où je pense que le fait que ce soit uniquement le pouvoir qui décide du référendum risque de faire tourner le référendum au plébiscite. Et ça a été l'erreur de De Gaulle, à mon avis, parce que lorsque le référendum refusait ce qu'il voulait, il partait. Ça ne va pas, si vous voulez. Bon, un pouvoir doit être suffisamment solide pour dire, bon, le peuple veut autre chose. Soit je m'en vais, effectivement, parce que pour moi, autre chose, ce n'est pas possible. Soit simplement, je gère cette autre chose. La Suisse, c'est ça. Ils se contentent de gérer ce que le peuple veut. Je pense que c'est le bon système, à condition, bien sûr, que le référendum soit annoncé relativement longtemps à l'avance, qu'il soit organisé dans des conditions extrêmement précises. Les Suisses votent tous les 6 mois, si je ne m'abuse, et à chaque fois, ils ont des documents extrêmement précis sur l'enjeu, sur les choses dont il s'agit, sur tous les éléments, chiffrés ou non, qui dépendent de leur choix. Voilà à quoi il faut arriver. Cela aurait un grand impact. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, effectivement, ce qui règne, encore une fois, à des niveaux différents, au niveau national et au niveau local, c'est la méfiance des électeurs envers leurs élus. Je pense nationaux. Que comment ?
Nationaux, surtout.
Oui, mais c'est plus vrai au niveau national et c'est moins vrai au niveau local, tout à fait. Mais précisément, si les électeurs disent, mais attendez, le dernier mot, c'est nous qui le donnons, ça va changer, ça va redonner de la confiance. D'abord, ça entraînera plus de confiance de la part des électeurs, ils diront, on compte quand même. Et d'autre part, ça donnera aussi plus de prudence aux élus, c'est-à-dire de ne pas imposer aux Français des choses dont ils ne veulent pas, ce qui est aujourd'hui pratiquement constamment le cas.
Hein. Et une partie des Gilets jaunes, au moment des événements, réclamait le mandat impératif. Vous en pensez quoi par rapport au mandat représentatif actuel ? Au moment de la Révolution française, ça avait été évoqué, et les députés de l'époque avaient refusé justement.
Oui, ça c'est une grande règle de notre République. En fait, un mandat n'est pas impératif. Effectivement, ça se comprend si vous voulez, parce que une situation peut évoluer. Une situation peut évoluer et donc on peut très très bien être amené à ne plus avoir par rapport à un certain sujet la même opinion qu'auparavant, si vous voulez. Donc je pense qu'un mandat impératif c'est beaucoup trop contraignant pour l'élu. Je crois que l'élu, autant le référendum, lui est impératif. Lorsque les Français ont choisi quelque chose, les élus doivent s'y soumettre. Autant lorsqu'un élu est élu, et c'est normal qu'il ait une certaine sphère d'autonomie, tout en sachant qu'effectivement, si les électeurs sont trop déçus, la prochaine fois, ils ne le reconduisent pas. C'est ça le jeu. Hein. C'est-à-dire que lorsque les gens ne font pas ce qu'ils ont promis, on les chasse. Là, je trouve que les Français sont un peu trop gentils. Avec leurs élus, hein, parce que non, le fait entre le mandat impératif et là, moi j'ai toujours essayé de respecter mes engagements d'origine. J'ai toujours été très ferme sur la sécurité.
Justement,
j'ai toujours défendu la sécurité. Bon, j'ai pas changé d'avis sur. Vous savez, j'ai très peu changé d'avis sur les différentes questions qui m'ont fait élire. Hein. Comme je dis, c'est pas moi qui ai changé d'avis, c'est la majorité à laquelle j'appartenais qui m'a énormément déçu, ce qui est tout à fait différent. Mais en revanche, Il y a des moments où effectivement on doit pouvoir changer. Oui, ça, c'est par exemple, moi personnellement, si vous voulez, quand j'étais très jeune, j'étais Algérie française. Bon. Je me suis toujours posé la question pourquoi des élus qui avaient été élus souvent parce qu'ils étaient Algérie française ont changé d'avis. Là, ça vous laisse vraiment au cœur d'un vrai sujet. Quoi. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez le chef de l'État qui est finalement le personnage le plus important de la politique française durant le siècle, qui vous dit, bon voilà, maintenant ce qu'il faut faire, c'est pas du tout ce que vous vouliez faire, ben on fait autre chose. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils font un coup d'État, ils mettent en bas le système, ou bien ils se disent, oui, il a raison dans le fond, parce que on ne va pas continuer à faire la guerre d'Algérie avec des centaines de milliers de jeunes Français qui vont passer 20 mois en Algérie, c'est pas possible. Donc là, vous comprenez que des élus changent d'avis, c'est pas très glorieux, mais
Moi, ça me choque pas que quelqu'un puisse changer d'avis parce que, voilà, comme vous venez de l'évoquer, les situations sont bien plus complexes et on s'aperçoit de leur complexité quand on est aux affaires que quand on est en dehors des affaires. Maintenant, je ne trouve pas normal qu'un élu qui a une certaine couleur politique que j'ai aidé, on va dire, à être élu par mon vote et qui avait une certaine couleur politique avec certaines idées, puisse voter des choses qui sont radicalement différentes, changer de crémerie. Il était UDF, ah bah, il va passer RPR ou il va passer RN, etc., sans me donner mon avis. Ce que je trouve, ce qui manque, et ça, on l'observe à tous les niveaux de la société aujourd'hui en France, il suffit de lire les rapports de la Cour des comptes, c'est cette absence de contrôle. Qu'il change d'avis, pourquoi pas? Mais pourquoi, avant de changer d'avis, ne revient-il pas vers nous pour dire… Donc, dans sa circonscription, pour dire, ben voilà, je m'apprête à faire ce vote-là, je m'apprête à changer parce que j'ai ces convictions-là. Qu'en pensez-vous?
Or, alors, j'ai une idée là-dessus, si vous voulez. Alors, il faut employer un mot anglais, c'est le mot recall, ça existe dans certains États américains. Là, ils font des référendums qui peuvent remettre en question l'élu. C'est comme ça que Schwarzenegger avait été élu gouverneur de Californie parce que son prédécesseur avait été recalé. Quoi. On lui avait dit dehors, on ne veut plus de toi. Alors, est-ce qu'on doit aller jusque-là? J'avoue que je m'interroge. Personnellement, je suis quand même assez favorable parce qu'il y a une certaine stabilité du pays et que cette remise en question systématique des élus risquerait quand même de créer une sorte de chien-lit. Mais c'est vrai que c'est une proposition, si elle était bien encadrée, qui pourrait être… elle aussi d'ailleurs, être mise au référendum, c'est-à-dire que les Français choisissent ou non si on doit intégrer le recall à notre système de référendum.
Très bien, voilà. Je crois que Nicolas, on est arrivé au terme,
c'est oui, ça? Il est arrivé, donc je me dis que c'est la fin de notre entretien.
Bonjour Christian, oui, tout à fait.
J'espère qu'on a eu le temps d'embrasser la plupart des questions. J'aurais aimé parler des grandes villes comme Lyon ou Paris, qui vont évidemment avoir une influence nationale tout à fait intéressante, et notamment du duel qui va se produire à ce que certains appellent l'extrême droite entre Madame Knafo, qui fait une campagne impressionnante, et Monsieur Mariani, que j'ai bien connu dans le passé, qui est en train de se faire ratatiner. C'est intéressant parce qu'à mon avis, ça va avoir des conséquences importantes cette fois-ci au niveau national. Parce qu'encore une fois, élection locale, dans les petites communes, ce sera purement local. Dans les communes très importantes, ce sera en fait soit un leurre national, une façon de tromper les électeurs sur la situation réelle du pays, soit une annonce de l'évolution prochaine.
Tyler Reddick here from 2311 Racing. Another checkered flag for the books. Time to celebrate with Chumba. Jump in at ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. CTNCs 21 plus. Sponsored by Chumba Casino.
Craving the coffee flavor you love, but without the caffeine? Cachava's got you covered with their newest coffee flavor. This all-in-one nutrition shake delivers bold, authentic flavor crafted from premium decaffeinated Brazilian beans with 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, and so much more. Treat yourself to the flavor and nutrition your body craves. Go to cachava.com and use code NEWS. New customers get 15% off their first order. That's KACHAVA.com, code NEWS.